Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles et nous aurons trois lectures dans Ésaïe, Jérémie et Apocalypse.
Alors, Ésaïe 40, verset 12, jusqu'au 17. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel? Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher, et ses animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. Et puis un petit peu plus bas, toujours dans le chapitre 40, au verset 22 jusqu'au verset 31. C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racine en terre. Qu'il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Pourquoi, dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et une seconde lecture dans le livre de Jérémie, Jérémie 32, 38 à 41. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Et puis une dernière lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 15, les versets 2 à 4. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Il est vainqueur de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Jusqu'ici notre lecture dans la parole de Dieu.
Alors comme une lampe électrique ne fonctionne pas sans électricité, eh bien la divine parole restera sombre sans l'action du Saint-Esprit. Donc nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui encore. Moi, je ne peux pas éclairer vos cœurs, je ne peux qu'être un guide. C'est le Seigneur qui éclaire nos cœurs. Alors là, les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, écoutez bien ce verset et apprenez-le par cœur. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31:30. Un passage à méditer et à prendre par cœur pour les jeunes hommes qui cherchent une épouse. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Quelle est l'influence sur ma vie? C'est le sujet sur lequel nous allons nous pencher ce matin, qui est la joie de craindre Dieu. C'est le titre de cette prédication et nous aurons en fait deux prédications sur ce titre-là. J'ai creusé ce sujet en lisant le livre de Jerry Bridges, « La joie de craindre Dieu ». Et je reprends sa structure pour les deux prédications que nous aurons donc aujourd'hui et au mois d'octobre. Et la structure de ces deux prédications sera semblable. On aura deux parties, enfin aujourd'hui il y en aura trois. Mais il y aura deux parties qui reviendront. La première c'est « Qui est celui que nous craignons avec joie ?» Et deuxièmement, « Comment craindre joyeusement Dieu ?» Mais pour cette première prédication, nous allons d'abord répondre à la question essentielle « Qu'est-ce que la crainte de Dieu ?» Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Donc c'est notre premier point. A-t-on déjà dit de vous, « Ah, tiens, voilà un craignant Dieu !» Voilà une craignante de Dieu. Savez-vous qu'il fut un temps où c'était un honneur d'être reconnu ainsi? D'ailleurs, Dieu souligne cette qualité comme étant excellente. Et voici ce que nous lisons lorsque l'Éternel loue l'attitude de Job. Dans Job 1, verset 8, il est dit « Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais bon, que veut dire craindre Dieu? Eh bien, on va commencer par une petite parabole moderne qui va nous aider à comprendre cela. C'est la parabole de notre ami James. James, en fait, est dans la marine. Donc l'histoire de James commence alors qu'il se tient debout, tout tremblant, devant son sergent instructeur qui lui hurle dessus. Il sait que la moindre petite erreur peut lui coûter 55 pompes ou 10 tours de terrain d'entraînement en tenue complète de combat. Telle est la vie de camp d'entraînement des Marines où les impitoyables sergents instructeurs se chargent de transformer les jeunes Américains indisciplinés en des hommes capables d'obéir sans sourciller. Ce qui est donc absolument vital lors des combats. Le sergent instructeur sanctionne dès la moindre erreur et très vite les recrues apprennent à craindre cet homme qui exerce sur eux un pouvoir suprême. James apprend à respecter l'autorité et à obéir promptement aux ordres. Et c'est à ce moment-là que le général vient faire une visite. James, devant cet homme très élevé dans la hiérarchie, sent la peur l'envahir. Il se sent comme un simple recrue qu'il est devant ce général. Et une profonde crainte face à ce puissant général de la marine est présente dans son cœur. Par la suite, il doit à nouveau rencontrer ce général parce qu'il a été choisi pour être son chauffeur personnel. Il est mitigé. D'un côté, il est fier de la confiance qu'on lui témoigne, et d'un autre côté, il se souvient de la crainte qu'il avait face à ce puissant général. En conduisant ce général, James se rend compte du travail et des compétences de celui-ci. En fait, sa crainte à l'égard de cet homme grandit, mais ce n'est plus la peur qui domine, mais un respect mêlé d'admiration. James, jusqu'ici, avait manifesté du respect. Jusqu'ici, il avait manifesté du respect, mais à présent, il éprouve du respect. Il avait manifesté du respect, maintenant, il en éprouve du respect. Avant, c'était extérieurement, et maintenant, ça devient intérieurement. Malgré le fait qu'ils s'apprécient mutuellement, James est toujours conscient de la différence hiérarchique. Et un jour, alors que James conduit le général, il tombe sur un champ de mines. Et le général est éjecté, se blesse gravement en tombant, et James est prisonnier du véhicule en flammes. Malgré ses blessures, le général réussit à sauver James au péril de sa vie. Le général se remet et peut reprendre ses occupations. Et il continue à visiter James, qui était plus gravement atteint. Comment est-ce possible qu'un général fasse cela pour un soldat? Eh bien, James conclut qu'il l'aime malgré leur différence de rang. En plus de la crainte respectueuse, de l'admiration qu'il lui porte, James commence à ressentir de l'amour et de la gratitude envers cet homme. Et il se réjouit de redevenir en fait le chauffeur de cet homme pour le servir encore mieux. Il réalise cependant que malgré l'amour qu'ils se portent mutuellement, ils ne deviendront jamais des copains. Cela restera toujours une relation « oui, mon général ». Et c'est le désir à tous les deux. Qu'est-ce que la crainte alors? Nous pouvons facilement remarquer qu'indépendamment du contexte et de l'objet de la crainte, cela inclut plusieurs éléments, plusieurs sentiments, si vous voulez. Le premier, c'est un sentiment de peur ou de terreur. Dans la crainte, il y a un sentiment de peur ou de terreur. Un sentiment de respect ou de vénération. Un sentiment d'admiration. Un sentiment d'émerveillement. Oui, ben alors, devrions-nous avoir peur de Dieu? Voici ce que nous lisons dans Genèse 3, verset 10. C'est Adam qui répond à Dieu après avoir péché. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et il avait raison d'avoir peur de Dieu. Lorsque nous péchons, si nous ne nous tournons pas vers Christ qui nous purifie de ce péché, nous avons raison d'avoir peur de Dieu. Lorsque nous péchons, si nous ne nous tournons pas vers Christ, celui qui enlève quelque part, qui purifie de ce péché, nous avons raison d'avoir peur de Dieu. Nous faisons souvent comme si Dieu ne voyait pas le péché, ignorait ce qui se passait, ne jugerait pas. Mais Dieu n'est pas ainsi. Les Écritures en Hébreux 12, c'est dans le Nouveau Testament, nous rappellent que Dieu est un feu dévorant et que nous devons lui rendre un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Non, Dieu n'est pas sans réaction face au mal. Donc il est bon d'avoir peur lorsque nous péchons. Et Dieu est bon. Et nous verrons qu'il n'y a pas de peur à avoir lorsque nous sommes couverts par le sang de Christ. Et nous devons garder ces deux aspects en mémoire si nous désirons comprendre et pratiquer la crainte de Dieu. Voici une description de la crainte de Dieu de John Murray. Je trouve intéressante, donc je vous la livre, qui dit ceci. La crainte de Dieu, décrite comme étant l'âme de la piété. La crainte de Dieu est l'âme de la piété, qui nécessite ou produit l'adoration et l'amour. C'est une crainte qui se nourrit de respect, de vénération, d'honneur et de louange, et de toute vertu. Nous prenons conscience de la majesté transcendante de Dieu et de sa sainteté, et c'est là que nous entrons dans une vraie crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est comme étant l'âme de la piété. J'aime bien cette notion, et se nourrit de respect, de vénération, d'honneur et de louange. En fait, cette sorte de crainte dépasse le simple fait d'être effrayé. Dans notre parabole moderne, le respect de James pour son général fut entier lorsqu'il réalisera avec émerveillement que ce dernier avait risqué sa vie pour lui. Et plusieurs exemples bibliques nous montrent que la crainte de ceux qui se trouvent en présence de Dieu a un effet sur eux. Vous vous rappelez de Moïse avec le buisson ardent? Ou Gédéon en voyant l'offrande brûler devant lui? Ou encore Job lorsque Dieu lui parle? Ou Ésaïe dans le temple lorsqu'il voit cette vision de Dieu? Ou Pierre devant Jésus après la pêche miraculeuse, lorsqu'il comprend qu'il y a une divinité? Ou Jésus lorsqu'il reçoit la révélation de l'Apocalypse? Et vous pouvez continuer à chercher dans la Bible, il y a encore d'autres situations où les gens sont confrontés à Dieu, à la grandeur de Dieu, ou simplement à la présence de Dieu. Un sentiment de crainte et de peur solennelle, parce qu'ils réalisent qu'ils sont en présence de Dieu. Et ils prennent conscience qu'ils ne sont en fait qu'une créature face au Créateur. Et cela développe chez eux un profond sentiment de crainte et de respect. Afin de ce point, revenons à notre question de départ. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Eh bien, j'espère vous avoir fait comprendre que c'est un mélange d'attitudes. C'est un mélange d'attitudes et de sentiments dans lesquels nous trouvons, entre autres, la peur dans notre péché, quand nous péchons, et devant Dieu, le respect, la vénération, l'admiration, la prise de conscience de qui est Dieu et l'émerveillement. Ça, c'est la crainte de Dieu. C'est tout ça, en fait. Pour ça que c'est pas toujours facile de le définir. C'est toutes ces choses. Or, ma question pour chacun de nous maintenant, c'est avez-vous, as-tu, ai-je, expérimenté au moins partiellement cette crainte de Dieu? Est-ce que ça m'est arrivé une fois d'avoir cette crainte de Dieu, comme je viens de la décrire? Si oui, ben je nous encourage à continuer à chercher à avoir cette relation avec notre Dieu Tout-Puissant. Sinon, je vous encourage à vous approcher de Dieu pour comprendre qui est Dieu et saisir vraiment qui il est. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais passons à notre deuxième point qui est « Qui est celui que nous craignons avec joie ?» Et ce que nous allons voir de Dieu nous aidera à compléter la compréhension de la crainte de Dieu en l'exerçant. Parce que c'est en exerçant qu'on se rend compte de ce que c'est. Et aujourd'hui, nous allons contempler ensemble la grandeur et la sainteté de Dieu. Alors que dans la deuxième prédication, au mois d'octobre, nous apprécierons la sagesse et l'amour de Dieu. Car pour avoir la joie de craindre Dieu, il faut le connaître et nous en rappeler, nous en souvenir de qui il est. Donc le Dieu que nous craignons est au-delà de toute mesure. Il est au-delà de toute mesure et incomparable. Vous pouvez prendre le livre de Job dans les versets 38 à 41, vous pouvez les relire. Si vous avez besoin de voir la grandeur de Dieu, relisez ces chapitres. Ou bien Ésaïe 40 qu'on a lu tout à l'heure, enfin une partie on a lu tout à l'heure. Et j'aimerais relire simplement le début de ce qu'on a lu pour qu'on soit bien dans cette notion, hein, dans Ésaïe 40, pour qu'on saisisse la grandeur de Dieu et pour le méditer un peu ensemble. Donc Ésaïe 40, les versets 12 à 17. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ? Fixé les dimensions des cieux avec la paume ? Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? » Quelqu'un veut répondre? Continue. Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher, ces animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien, elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. Qui a enseigné la sagesse à l'Éternel? Personne. Parce que la sagesse se trouve en Dieu. Vous avez remarqué la grandeur de Dieu en lisant ce texte? On va un tout petit peu nous aider encore à mieux le saisir. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Dieu est si grand qu'il peut le mesurer toutes les eaux de la terre dans le creux de sa main. Alors moi j'ai essayé de mettre de l'eau dans le creux de ma main. Vous voyez, on met bien le pouce et tout ça. Et j'ai mesuré combien il y avait d'eau dans le creux de ma main. Bon, j'arrive à une cuillère à soupe. Même pas un déci, enfin loin de un déci, même pas un dixième de litre, c'est dans le creux de sa main. Nous savons que l'eau recouvre plus des deux tiers de la terre, parfois jusqu'à 6000 ou même plus de 6000 mètres de profondeur. Donc si le volume total serait calculable, on ne pourrait même pas se rendre compte de ce que cela signifierait. Tous ces litres d'eau, ces mégalitres, ces téralitres d'eau. Et Dieu dit qu'il tient les eaux dans le creux de sa main. C'est pour la grandeur. Nous sommes grandeur. Et Isaïe continue avec la dimension des cieux, fixée avec la paume de sa main. L'étoile la plus proche de la terre, la connaissez? je l'aurais pas connu si je n'avais pas cherché, c'est Proxima Centauri, est à plus de 42 trillions de kilomètres. 42 avec 12 zéros. Et ceci étant l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Les mesures de l'univers sont au-delà de notre intelligence. Mais Dieu dit qu'il fixe cette distance avec la paume de sa main. Ah oui, la poussière. On parlait de poussière dans ce texte. Juste pour qu'on se rende compte un tout petit peu de ce que vaut la poussière. Quand vous allez faire vos courses, je vais pas donner de nom de magasin, comme ça je serai pas embêté, parce que dans tous, ça se passe comme ça actuellement. Enfin, ouais, dans tous. Quand vous allez chercher des légumes dans les parties de légumes ou les fruits, vous allez les mettre sur la balance. Ok ? Qui souffle pour enlever la poussière sur la balance pour que ça ne coûte pas plus cher ? Qui enlève cette balance ? Vous le faites ? Mais non, bien entendu, parce que cela n'influence rien du tout à la pesée. Et face donc à la grandeur et à l'immensité de Dieu, les nations, même les plus puissantes, sont comme cette poussière. C'est marrant parce que depuis que j'ai réfléchi à cette illustration, j'y pense souvent quand je pèse mes légumes à la vie, dans un magasin. Ce n'est pas pour diminuer la grandeur des empires. Des empires qui étaient titanesques à nos yeux. Mais c'est pour nous faire comprendre l'infinie grandeur de Dieu. On a toujours tendance, lorsqu'on parle de Dieu, à dire on doit diminuer autre chose pour voir la grandeur de Dieu. Non ! Il n'y a pas de moins. Il n'y a que le plus. Dieu est plus grand. Il n'y a pas besoin de diminuer quelque chose pour dire que Dieu est plus grand. Vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont énormes. Hein, des empires sont énormes. Et pour Dieu, c'est comme la poussière dans le magasin où vous irez pour acheter vos fruits et légumes. Parce que Dieu est beaucoup plus grand. Dieu est absolument au-delà de toute mesure. Alors à quoi cela sert-il de savoir toutes ces choses ? Eh bien à placer notre confiance en ce Dieu grand et incomparable et avoir de la joie à craindre Dieu. Notre Dieu est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir. C'est Paul qui dit ça à Timothée, par exemple. Il est celui qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre, dans le psaume 75. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire au siècle des siècles, Romains 11. Par conséquent, craindre Dieu, c'est cultiver un sentiment de profond respect devant sa grandeur infinie, sa majesté, qui sont révélées à travers sa parole et ses œuvres. Voilà un moyen de cultiver sa crainte de Dieu, c'est de voir sa grandeur. Quand nous regardons le ciel, rappelons-nous que Dieu le mesure avec la paume de sa main. Et quand nous regardons des plans d'eau, pour regarder le lac ici de Neuchâtel, bon, c'est beaucoup plus, hein, toutes les eaux de la terre, mais même juste le lac de Neuchâtel, et pensons qu'il tient les eaux du monde dans le creux de sa main. Et donc en apprenant à voir Dieu dans sa parole et dans son œuvre, nous pouvons nous écrier comme le prophète Jérémie, « Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages de toutes les nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. » Jérémie 10, les versets 6 et 7. Donc c'est en réalisant que Dieu est au-delà de toute mesure, incomparable, que notre crainte grandit. Cette crainte, avec tous les aspects qu'on a vus ensemble tout à l'heure. Le Dieu que nous craignons avec joie est aussi saint. Après avoir admiré l'immensité sans limite de Dieu, réfléchissons un peu à sa sainteté. Le Dieu que nous craignons est saint. On pourrait faire une semaine d'études sur cette sainteté. Mais j'aimerais souligner quelques éléments. Sa sainteté nous assure que tout ce qu'il fait est bon. C'est impossible qu'il fasse quelque chose qui n'est pas bon. Il est saint. Cela nous assure aussi qu'il est juste. Que tout ce qu'il fait est bien, parfait, sans aucune influence d'un quelconque mal. Parce que la sainteté, on pourrait dire, c'est la séparation totale d'avec le mal. Donc tout ce qu'il fait est bon, juste, bien et parfait, sans influence du mal. Il est totalement séparé d'avec le mal. Et un commentateur dit que le mot « saint » utilisé dans Ésaïe 6 au verset 3, donc quand les anges disent « saint, saint, saint et l'éternel », on va lire dans quelques instants, « la somme de la perfection divine qui sépare Dieu de la création est dans ce terme saint ». C'est la perfection divine qui nous sépare en fait de Dieu, de qui il est. Il est Seigneur et n'est pas un homme. Si la création dépend de lui, il est totalement indépendant d'elle. Dieu est indépendant de sa création. Il n'a pas besoin de sa création pour vivre, or que nous avons totalement besoin de lui pour vivre. Nous allons lire Ésaïe 6, on est déjà dans Ésaïe 40, on revient un petit peu avant dans Ésaïe 6. On va lire là ce texte qui est très fort, versets 1 à 4. Et vous cherchez à imaginer un peu cette scène. Hein. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, dont deux se recouvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées !» Toute la terre est remplie de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Dans Jean 12, 41, il est dit qu'Ésaïe a vu Jésus-Christ. Ici. Jésus-Christ. Donc cessons de ne voir en Jésus qu'un homme. Comprenons qu'il est le Dieu saint. Et le qualificatif saint, d'ailleurs, est beaucoup plus employé que tous les autres pour décrire Dieu dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament. Hein, dans le premier cantique de la Bible, mais aussi dans le dernier Magnificat, la sainteté de Dieu est soulignée. Le premier se trouve dans Exode, on avait vu ça ensemble quand on avait fait tous les cantiques, vous vous souvenez? Hein, dans Exode, à la sortie de la mer Rouge, il y a le cantique de Moïse, c'est donc au verset 11 de Exode 15, qui dit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ?» Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Et un écho en Apocalypse 15, hein, donc là on a Exode 15, Apocalypse 15, c'est facile à retenir, au verset 4, ceux qui ont vaincu la bête entonnent, Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car toi seul tu es saint. Même la prière que Jésus nous enseignait commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » La sainteté de Dieu passe avant la venue de son règne et la réalisation de sa volonté. Face à la sainte majesté de Dieu, nous réalisons notre petitesse. Et devant sa pureté, nous prenons conscience de notre péché, de notre impureté. Et comme Ésaïe, si vous lisez la suite de Ésaïe 6, nous nous sentons impurs devant ce Dieu qui est parfaitement saint. Et un seul peut purifier l'élève d'Ésaïe, Dieu lui-même. Il dit à travers un séraphin à Ésaïe, « Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Mais comment est-ce que Dieu peut dire cela? Peut-il arbitrairement pardonner le péché? Ah, là j'ai envie de pardonner, ok c'est bon. Peut-il accorder le pardon sans que la justice soit pleinement satisfaite? Non, il ne le fait pas. Parce qu'il ne va pas outrepasser sa justice ni péché. Il ne va pas exalter sa miséricorde au détriment de sa justice. Humainement, nous percevons la justice comme quelque chose de positif, quand on n'est pas celui qui a fait une faute. Quelque chose qui est à notre avantage. Si un enfant est tué dans un village, odieusement, tout le monde crie à la justice et réclame que l'auteur de l'acte soit arrêté, reconnu coupable et sévèrement puni. On est d'accord. Voilà ce qu'est la justice à nos yeux. Mais l'assassin, lui, ne demande pas que justice soit faite. Et même s'il est arrêté et reconnu coupable, il espère que le juge sera indulgent et n'attend pas qu'il fasse justice. Il ne désire pas payer pour son crime, mais réclame la miséricorde. Supposons que le juge soit indulgent et prononce une sentence peu sévère. Quelle sera la réaction des villageois? Mais ils crieraient tous au scandale. Ils se plaindraient que la justice a été violée, que le coupable n'a pas reçu la punition qu'il méritait. Étant pécheurs, nous sommes coupables devant Dieu. Et la justice n'est pas en notre faveur. Elle est plutôt contre nous. Et le verdict est déjà tombé d'ailleurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans ce cas, ne réclamons pas que justice soit faite. Sinon, nous serions simplement punis d'une mort éternelle. Non, implorons la miséricorde. Mais Dieu est saint et parfait. Il ne peut choisir l'indulgence et violer sa justice. Y a-t-il de l'espoir? Eh bien, nous trouvons la réponse à cette question dans le merveilleux passage prophétique d'Ésaïe 53. Les lèvres impures du prophète ont été purifiées par Dieu et prononcent des paroles éternelles qui disent ceci: « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun vivait sa propre vie, et nous étions sous son jugement. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ésaïe annonce la venue du seul capable de satisfaire la justice de Dieu, celui qui a pris sur lui le terrible châtiment qui nous était réservé. C'est ainsi que Dieu peut dire au prophète: « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Quelques 700 ans plus tard, le Fils de Dieu, selon le plan parfait du Père, rétablit la justice et paye pour le péché d'Ésaïe. Jésus réconcilie la justice et la miséricorde de Dieu. La justice est faite et Dieu peut exercer sa miséricorde tout en restant saint. Est-ce que ces paroles touchent notre cœur? Est-ce que nous sommes saisis par ce que Dieu a fait? Et si c'est le cas, alors courons vers Christ, ce Christ crucifié, pour tous ceux qui viennent à lui, qui a les bras ouverts et qui nous purifie. Si le péché n'était pas entré dans le monde, nous aurions craint Dieu. Parce que la crainte de Dieu, on a vu, il y a plusieurs facettes. La crainte de Dieu est là même sans péché. Nous nous serions tenus naturellement dans le respect devant lui, comme les anges qui craignent Dieu, mais sans peur. Avec joie, nous aurions pu joindre au chant des séraphins et nous exclamer « Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Cependant, le péché est entré dans le monde. Et à cause de sa sainteté, Dieu se révèle comme celui qui hait le mal et juge le pécheur avec sa justice. Mais dans la personne de son Fils, il révèle aussi son amour. Il révèle qu'il est un sauveur miséricordieux, plein de grâce. Le respect et la peur que nous éprouvons devant sa sainteté se joint alors à l'émerveillement qui remplit nos cœurs, en fait, face à son amour. Réfléchissons quelques instants aux phrases d'un pasteur que j'aime beaucoup qui dit ceci: rien ne peut produire en nous une plus grande crainte de Dieu que la vision révélatrice de la croix de Christ. Quand on la comprend, quand on comprend tout ce qu'il y a derrière. Rien ne peut produire en nous une plus grande crainte de Dieu que la vision révélatrice de la croix de Christ. C'est là que resplendit sa parfaite sainteté, son inflexible justice, son incompréhensible sagesse, sa toute-puissance, son saint amour. Aucune de ces qualités ne surpasse les autres, elles sont toutes resplendissantes. Le éclat se mélange et elle brille ensemble d'une éternelle splendeur, celle du juste juge, du Père miséricordieux et sage. Nulle part ailleurs on ne trouve une justice aussi terrible, une miséricorde aussi grande et une sagesse aussi profonde. Fin de la citation. Il est bon de revenir à la croix pour saisir la justice, la miséricorde et la sagesse de Dieu. Nous avons approché la question de qu'est-ce que la crainte de Dieu ? Nous avons contemplé la grandeur et la sainteté de Dieu. Et comme dernier point pour aujourd'hui, nous voyons quelques éléments utiles pour attiser la flamme. Comment craindre joyeusement Dieu ? On a déjà commencé en réfléchissant à qui est Dieu, évidemment. Et quand on réfléchit à qui est Dieu, on est dans une situation un peu comme dans des camps. Vous avez déjà fait des camps ? On est dans un camp, puis c'est... Après, il faut redescendre la colline, rentrer à la maison. Ben voilà, on admire Dieu, mais après on se dit, mais comment est-ce qu'on va vivre ça pratiquement là ? Dans les points précédents, on a mentionné la grandeur, des glorieuses vérités sur Dieu. Mais nous ne voulons pas en rester là. Nous avons besoin d'apprendre comment grandir dans la crainte de Dieu, au sein même des devoirs et des pressions de la vie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes croyants, nés de nouveau, Dieu a déjà implanté dans notre cœur la crainte qui lui est due. C'est pas quelque chose qu'on doit inventer, qu'on doit créer. Jérémie 32, les versets 38 à 40, on l'a vu tout à l'heure. Le Seigneur de sa grâce fait une promesse. Il parle de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Où il a dit, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leur fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. C'est ce que Dieu fait. Celui qui est en Christ a cette crainte. Bien sûr, il va le développer. C'est pas quelque chose qui... ça doit pousser. C'est comme vous recevez des bras, il faut les utiliser. Si nous sommes nés de nouveau, transformés par la grâce de Dieu, plaçant notre espoir en Christ, notre Seigneur et Sauveur, le fondement de la crainte de Dieu réside déjà en nous. D'une façon élémentaire au moins. Nous possédons déjà un sentiment de vénération, de respect, d'honneur, d'adoration vis-à-vis de Dieu et de peur lorsque nous péchons. Celui qui est incroyant n'a pas peur souvent quand il pêche. Puis alors ? Mais non. Ça fait partie de la crainte de Dieu. Pour lui rester fidèle. Si nous sommes croyants, ces sentiments sont bien là, bien qu'ils puissent avoir différentes forces, ou parfois n'être qu'une étincelle. Et nous avons la responsabilité d'aviver cette étincelle, si vous voulez, de développer la flamme de la crainte de Dieu. Et nous la développerons de différentes manières, avec différents outils. J'aimerais vous donner 5 éléments pour attiser la flamme. Ce n'est pas des nouveautés. Mais on doit se le rappeler, tellement souvent. Et le vivre. Donc là, dans ce que je vais vous dire, maintenant, vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que je le vis ? Et on peut se retrouver la semaine prochaine, ben, je ne sais pas, jeudi ou un autre jour, pour se dire, comment est-ce que tu as vécu ces éléments cette semaine ? Les as-tu vécus ? La première, nous avons besoin de demander à Dieu de stimuler cette croissance en nous. C'est la première chose à faire. Nous sommes dépendants de lui. Il le met en nous, il nous fait même cette grâce de pouvoir lui demander de la stimuler, de stimuler cette croissance. C'est Dieu qui fait croître. Vous avez un jardin, vous avez déjà tiré sur vos carottes, ça ne pousse pas. C'est Dieu qui fait croître. Un verset peut-être à prendre avec nous, c'est le psaume 86, verset 11, qu'on peut faire nôtre, qui dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Nous sommes constamment sollicités par le monde, les désirs de la nature pécheresse, de sorte que nous avons besoin de prier que Dieu dispose nos cœurs tout entiers à la crainte de son nom. On a vraiment besoin. Enfin, moi j'en ai besoin. Deuxièmement, juste après la prière, le deuxième ingrédient nécessaire à la croissance de la crainte de Dieu est une exposition régulière de l'esprit au cœur de sa parole. Une exposition régulière de l'esprit et du cœur à sa parole. Et cela se fait par la lecture publique de la Bible, comme dans le culte, et la lecture personnelle. L'exposition régulière aux Écritures, de manière personnelle et en Église, dans un esprit de prière, constitue la façon la plus efficace de grandir dans la crainte de Dieu. Troisièmement, la lecture de la Bible élargit notre connaissance, mais son étude approfondit notre compréhension. La lecture Hein, parce qu'on peut lire la Bible comme ça, on lit la Bible là, de A à Z. Ça élargit notre connaissance, mais son étude approfondit notre compréhension. C'est le troisième élément. L'étude assidue de la Bible et la recherche en profondeur. L'étude assidue de la Bible, la recherche en profondeur. Et cela se fait, c'est vrai, les prédications nous y aident, les études bibliques nous aident, l'étude personnelle nous y aide. Nous sommes appelés à disposer, à apprendre, à le faire dans un esprit de dépendance envers Dieu, à mettre en pratique ce que nous apprenons, comme la poursuite d'un trésor. On reçoit la carte qui nous montre où est le trésor, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'église? Ben, on va chercher à trouver ce trésor. Non, on laisse la carte, puis on va qu'à d'autres occupations. Le quatrième élément, à côté de la prière, la lecture et l'étude de la Bible, la lecture de livres édifiants. Mais oui, Dieu donne cette grâce d'avoir des lectures de livres édifiants. Pas besoin de lire beaucoup, pas besoin de lire beaucoup d'un coup, quelques pages régulièrement, et vous viendrez à bout de beaucoup de livres stimulants. Régulièrement, quelques pages de bons livres. Ça nous aide à entrer dans la compréhension de qui est Dieu, de ce que signifie craindre Dieu. Et cinquième et dernier élément, en dehors de l'imprégnation des Écritures et aux disciplines qui est indispensable pour grandir dans la crainte de Dieu, c'est l'habitude d'entretenir des pensées élevées au sujet de Dieu. L'habitude d'entretenir des pensées élevées au sujet de Dieu. Et ça, je vous encourage dès le matin, tous les jours, à penser à Dieu d'une manière élevée. Vous pouvez mémoriser des versets, ça peut aussi aider, des versets qui parlent de Dieu. Vous pouvez le faire, vous savez, on a beaucoup de temps d'attente dans notre monde. Notre monde qui veut que tout aille vite, il y a beaucoup d'attentes, vous avez déjà vu? Très souvent, on doit attendre. On va à la caisse, on doit attendre. On va prendre le train, on doit attendre. Il y a beaucoup d'attentes, en fait. Mais ces temps d'attente peuvent venir des temps où on exerce l'habitude d'entretenir des pensées élevées au sujet de Dieu. Et je pourrais venir vers vous, puis je vais vous dire, ce matin-là, si je venais te demander, que pensais-tu de Dieu avant de venir au culte? Peut-être vous auriez dit, ben rien, je pensais à me déplacer pour venir ici. Que pensons-nous, qu'avons-nous comme pensée de Dieu aujourd'hui, là maintenant? Ça va changer ma façon de vivre, ça va changer ma façon de craindre Dieu. Peut-être que nous pourrions même commencer par effacer le terme « hasard » de notre vie, et le remplacer par la bonté de Dieu, ou que Dieu est au commandement. Des pensées élevées nous détournent de nous-mêmes. Il nous faut grandir, en fait, dans la crainte de Dieu. J'aimerais terminer cette première prédication par une courte conclusion. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui sous le thème de la joie de craindre Dieu, mais j'aimerais nous encourager de nous emmitoufler de l'amour de Christ. Mais bientôt en hiver, on se rend compte de ce que signifie s'emmitoufler. S'emmitoufler de l'amour de Christ qui nous donne l'accès au Dieu de l'univers, grandiose et extraordinaire. Approchons-nous avec une sainte crainte, heureux de l'avoir pour Père Céleste qui prend soin de nous. Et si tu n'es pas emmitouflé par l'amour du Christ, ne prends pas froid. Ne prends pas froid. Cours vers Christ et demande pardon pour tes péchés. Et tu pourras craindre Dieu avec joie. Qu'est-ce que Dieu t'a fait comprendre aujourd'hui pour t'aider à progresser dans la crainte de Dieu? Ben, une idée, c'est qu'après le culte, vous allez vers une personne et vous lui dites, ah ben, ça c'est quelque chose que j'ai pu apprendre. Peut-être ça a été dit, peut-être simplement quelque chose à quel j'ai pensé. Voilà, un élément qui m'a encouragé durant ce culte. N'hésitez pas, parce que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. S'il tombe, son compagnon le relève. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever, dit l'Ecclésiaste. On est ensemble. C'est ensemble que nous grandissons aussi dans la foi. Nous avons un grand Dieu. Vous rappelez le lac de Neuchâtel? Toutes les eaux sont dans sa main. Nous avons un Dieu saint. Il est parfait sous tous les angles. Et nous avons reçu des moyens pour progresser dans la crainte de Dieu, afin que toute la gloire nous revienne. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, il est bon, et en même temps, c'est vrai que parfois nous pouvons le faire en tremblant de nous approcher de toi, mais ce tremblement n'est jamais quelque chose qui nous éloigne de toi, parce que nous pouvons nous réjouir de ce que Christ a fait pour que nous puissions nous approcher de toi en ayant cette confiance d'un enfant qui va vers un Père parfait, qui ne lui veut que du bien, qui ne va que le protéger, qui ne va que l'aider à grandir, qui ne va que le chercher à le fortifier dans les chemins qui sont justes et bons. Éternel, nous voulons nous approcher de toi dans la reconnaissance. Nous approcher de toi, Seigneur, en étant aussi émerveillés de qui tu es simplement déjà. Émerveillés aussi de toutes tes œuvres qui sont en dehors de ce qui nous touche peut-être directement, et émerveillés par tout ce que tu as fait qui a un impact dans nos vies. Éternel, nous voulons ce matin simplement t'adorer. Nous voulons te prier de nous aider à grandir dans la crainte de ton nom. Et que, Seigneur, lorsque cette crainte manifeste une terreur dans nos vies, une peur, guide-nous, Seigneur, vers ce péché qui nous a détournés de toi, qui nous fait avoir peur. Et donne-nous cette grâce, Seigneur, de courir à la croix, de le déposer, d'en être délivré, et de pouvoir venir vers toi, de vivre une crainte émerveillée, qui est complètement libérée de toute peur, parce que Christ a payé. Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui nous guide, qui veut notre bien, et je te prie vraiment que chacun ici puisse être puissamment fortifié, et que ceux qui sont à la maison, chez eux aussi, puissent être puissamment fortifiés, renouvelés, encouragés, parce que tu es le Dieu tout-puissant, et tu es le Dieu saint, qui fait toutes choses bonnes. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.